Voici une question dont la réponse peut littéralement changer votre vie. Que faut-il faire pour être sauvé, pour avoir la vie éternelle? La parole de Dieu elle-même va nous donner la réponse aujourd'hui à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Je vous encourage à porter une attention particulière à l'enseignement que Dieu va nous donner aujourd'hui. Je peux vous dire que c'est une question de vie ou de mort. Voici quelques questions que tout être humain devrait poser. Savez-vous qui est Jésus? Est-il réellement le Christ, le Fils du Dieu vivant? Ou est-il un imposteur? Savez-vous ce que Jésus a fait quand il est venu sur la terre? Est-ce que Pierre est le roc sur lequel Jésus bâtit son Église? Est-ce que les clés du royaume des cieux ont été données uniquement à Simon-Pierre? Est-ce qu'une simple connaissance intellectuelle de qui est Jésus suffit pour être sauvé? Que faut-il faire pour être sauvé? La Bible ouverte est présentement dans les mains du pasteur Régent Joly. Soyons attentifs aux réponses de la parole de Dieu. Elles ont transformé ma vie. Elles peuvent définitivement transformer la vôtre. Mais premièrement, prions. Oui, ta parole, Seigneur, peut transformer une vie. Je te loue, je te remercie de ce que tu as transformé la mienne par ta parole. Et je te demande de faire ce beau travail dans le cœur de chaque personne qui est à l'écoute en ce moment. Transforme nos vies, Seigneur. Rends-nous dignes de ton royaume. Amen. À toi, Régent.
Merci, Caro. Dans ce chapitre 16 de l'Évangile selon Matthieu, Jésus fait toujours face à l'opposition des scribes et des pharisiens. De plus, Jésus demande une question très importante à ses disciples. Il leur demande « Que pense-t-il qu'il est ?» Finalement, Jésus aborde le sujet de l'Église, sa mort et sa résurrection. Débutons notre lecture du 16e chapitre de l'Évangile selon Matthieu, les versets 1 à 3. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et, pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, « Le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge, et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps? » C'est la deuxième fois que les scribes et les pharisiens demandent un signe. Nous avons vu les détails du premier incident dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 12, verset 38. Jésus avait refusé de faire un miracle pour eux et il ne leur avait donné que le signe de Jonas. C'est ce qu'il va faire de nouveau. Mais avant, il leur fait remarquer une chose. Ils sont habiles pour prédire le temps qu'il fera, mais ils sont incapables de reconnaître les signes des temps. En fait, l'élite religieuse essaie de piéger Jésus, et il va avertir ses disciples à leur sujet. Verset 4. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Puis, il les quitta et s'en alla. Jésus avait fait de nombreux miracles, mais ils ne les acceptaient pas. Donc, il leur reparle du signe de Jonas. Dans le chapitre 12 de l'Évangile selon Matthieu, verset 40, nous lisons, « Car, de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. » Cependant, les scribes et les pharisiens n'étaient pas disposés à reconnaître cela comme un signe. Dans ce chapitre, nous allons voir 3 opinions au sujet de Jésus. Premièrement, les pharisiens considèrent que Jésus-Christ est un imposteur et ils nient qu'il soit le Messie attendu. Par contre, la foule pense qu'il est Jean-Baptiste, Élie, Jérémie ou un autre des prophètes. Malgré qu'elle ait une meilleure opinion de Jésus-Christ que les scribes et les pharisiens, elle se trompe sur qui est Jésus. Finalement, les disciples de Jésus pensent qu'il est le Messie, le Fils de Dieu. Les scribes et les pharisiens demandaient un signe ou un miracle. Jésus a répondu qu'aucun signe autre que celui du prophète Jonas leur serait donné. Puis, il les quitta et s'en alla. C'est une coupure complète entre Jésus et l'élite religieuse. Jésus les quitte et avertit ses disciples au sujet de leur enseignement. Poursuivons notre lecture, les versets 5 à 7. Les disciples, en passant sur l'autre bord, avaient oublié de prendre des pains. Jésus leur dit, « Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. » Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient, « C'est parce que nous n'avons pas pris de pain. » Au chapitre 13, nous avons vu que le levain représente toujours le mal et non le bien. Le Seigneur dit de se garder du levain. Si quelqu'un nous demande de se garder de quelque chose, c'est parce que cette chose est malsaine ou mauvaise. Les disciples ont pensé que Jésus leur parlait du pain. Versets 8 à 12. Jésus, l'ayant su, dit, « Pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur le fait que vous n'avez pas pris de pain? Êtes-vous encore sans intelligence? Et ne vous rappelez-vous plus les 5 pains des 5 000 hommes et combien de paniers vous avez emportés? Ni les 7 pains des 4 000 hommes et combien de corbeilles vous avez emportées? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet de pain que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. » Alors ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Si Jésus avait parlé de véritable pain, les apôtres auraient dû se rappeler les 2 multiplications des pains, alors que 2 nombreuses foules furent nourries. Mais il ne parlait pas du pain d'un boulanger. Selon l'interprétation du Seigneur, le levain est la fausse doctrine. C'est quelque chose de mauvais. Lorsque les gens parlent du levain de l'Évangile, ils emploient un terme contradictoire. Le levain ne représente jamais l'Évangile, mais c'est un symbole du mal. Si vous acceptez l'autorité de Jésus, alors ceci devrait trancher la question une fois pour toutes. Nous devons toujours bien réfléchir en étudiant l'Évangile selon Matthieu, car cet Évangile est la clé pour interpréter le reste des Saintes Écritures. Il est nécessaire de faire certaines distinctions et de noter attentivement ce qui se passe. Verset 13. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée et de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui suis-je, au dire des hommes, moi le Fils de l'homme? » Si vous consultez une carte, vous noterez qu'il y a 3 Césarées. Césarée de Philippe est située au nord de la mer de Galilée. Le Seigneur Jésus se trouve dans la région nord et il va maintenant entreprendre un périple qui va le conduire à Jérusalem et à la croix. Avant d'entreprendre ce dernier voyage, il doit faire comprendre 2 choses à ses disciples. Premièrement, qui il est, et deuxièmement, ce qu'il va faire. Mes amis, ce sont 2 choses que nous devons comprendre pour devenir chrétiens. Nous devons savoir qui est Jésus-Christ et nous devons savoir ce qu'il a fait. Notez la première question de Jésus-Christ. Qui suis-je, au dire des hommes, moi le Fils de l'homme? Jésus-Christ demande encore cette question aujourd'hui. Et on la répond encore. Jésus-Christ est toujours la personne qui provoque le plus de controverses sur cette terre. Maintenant, nous allons examiner les réponses de la foule qui suit Jésus-Christ. Je pense que si nous posions la question à des gens sur la rue, nous aurions des réponses semblables car les gens sont toujours confus au sujet de la personne de Jésus-Christ. Verset 14. Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. » Les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était un grand homme, et la foule le reconnaissait. De nos jours, bien des gens voient en Jésus un grand enseignant. Certains affirmaient que Jésus était le prophète Élie. C'est vrai qu'Élie fut un grand personnage, et aujourd'hui, il y en a qui voient en Jésus-Christ un grand personnage. D'autres prenaient Jésus-Christ pour le prophète Jérémie. Jérémie fut un grand prophète qui pleura la destruction de Jérusalem. Les gens ont vu Jésus pleurer, et la foule le prenait pour un grand prophète. Cependant, il circulait plusieurs opinions au sujet de quel prophète devait être Jésus. Donc, nous avons ici l'opinion générale qui circulait parmi le commun des mortels. Un jeune pasteur très extraverti, qui a entendu notre prédicateur J. Vernon McGee, le responsable, l'auteur de nos textes, prêcher sur ce sujet. Il est descendu dans la rue et a demandé aux passants qui était Jésus. Il a reçu toutes sortes de réponses. Certains affirmaient qu'il fut le plus grand enseignant qu'il y eut dans le monde, dans toute l'histoire. Certains voyaient en lui le fondateur d'une religion. D'autres pensaient qu'il était un homme bon. D'autres le classaient parmi les hommes célèbres de l'histoire, parmi les autres prophètes. Maintenant, Jésus va poser la question à ses disciples. Versets 15 et 16. « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » C'est au tour des disciples de répondre et d'afficher leur couleur. Simon-Pierre fut le porte-parole du groupe. « Tu es le Christ, c'est-à-dire le Messie, loin, celui dont l'Ancien Testament a prédit la venue. » Et Pierre a ajouté, « Le Fils du Dieu vivant. » Il ne pouvait pas y avoir de plus belle confession, de plus grande reconnaissance. Et c'est exactement qui est Jésus, le Messie et le Fils de Dieu. Verset 17. Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Seul le Saint-Esprit peut révéler Christ à une personne. Personne n'appelle Jésus Seigneur si ce n'est poussé par l'Esprit-Saint. Seul l'Esprit de Dieu peut prendre ce qui est à Christ et nous le révéler. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Autrement dit, tu n'as pas appris cela en te tenant en ma compagnie. Certains pensent probablement que s'ils avaient suivi Jésus pendant presque 3 ans, ils sauraient qui il est. Pensez-vous vraiment cela, mes amis? Vous pouvez connaître Jésus-Christ aussi bien que les apôtres parce que c'est l'Esprit de Dieu qui vous le révèle. Verset 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Examinons attentivement ce verset. Sur quel roc est-ce que Jésus-Christ bâtit son église? Certains affirment que le roc est Simon-Pierre. Mais ce n'est pas le cas, car le texte emploie 2 mots différents. « Tu es Pétros, une petite roche, et que sur ce Pétra, rocher, je bâtirai mon église. » D'autres pensent que Christ bâtit son église sur la confession de Pierre. Je ne suis pas d'accord avec cela. Qui est le roc? Christ est le roc. L'église est bâtie avec Christ comme fondement. Simon-Pierre a lui-même donné l'explication. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Première épître de Pierre, chapitre 2, verset 4. De plus, il rappelle les paroles du prophète Ésaïe. Voici, « Je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. Première épître de Pierre, chapitre 2, verset 6. Christ est la seule fondation sur laquelle l'Église est construite, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Parole de l'apôtre Paul, tirée de 1 Corinthiens chapitre 3, verset 11. Christ est le roc, et il affirme qu'il construira son Église sur ce roc. L'Église n'existait pas encore au moment où il a prononcé ces paroles. Et ne me dites pas qu'il y avait une Église en l'Ancien Testament, car elle a vu jour seulement après la mort, la résurrection et l'ascension de Christ, ainsi que la venue du Saint-Esprit. Ces quatre choses devaient se produire avant qu'il puisse y avoir l'Église. Christ a employé un temps futur. « Je bâtirai mon Église. » Les portes du séjour des morts réfèrent à la mort. En grec, le mot « Hadès » est utilisé pour l'enfer et le mot « Sheol » dans l'Ancien Testament. Ces termes réfèrent à un monde invisible qui signifie la mort. Les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre l'Église de Christ. Un jour, le Seigneur reviendra personnellement du ciel en poussant un cri. Ce cri sera comme la voix d'un archange et une trompette, car les morts en Christ ressusciteront. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre son Église. Verset 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Que sont les clés du royaume des cieux? Furent-elles données seulement à Simon-Pierre? Non, le Seigneur les a données à tous ceux qui connaissent Christ comme Sauveur, à tous ceux qui font la même confession que Simon-Pierre. Si tu es un enfant de Dieu, tu as les clés aussi bien que tous les autres enfants de Dieu. Les clés étaient un symbole de l'autorité des scribes qui interprétaient les Écritures au peuple. Aujourd'hui, tous les chrétiens ont une copie de la Bible, donc ils ont les clés. Si nous ne semons pas la parole, nous lions sur terre. Si nous la transmettons, nous délions sur terre. Aucun homme ou aucune dénomination religieuse possède les clés, à l'exclusion de tout autre. Nous devons prêcher l'Évangile, car c'est le seul message qui conduit au salut. Nous avons une très grande responsabilité. Verset 20. Alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Jésus a fait cette requête, car une simple connaissance intellectuelle de qui il est ne suffit pas. Pour être sauvé, il faut savoir qui est Jésus, ce qu'il a fait, et le recevoir par la foi. Maintenant, pour la première fois, le Seigneur Jésus va expliquer à ses disciples qu'il doit mourir et ressusciter. Cela s'est probablement produit 6 mois avant la crucifixion. Pourquoi a-t-il tant attendu avant de faire cela? Probablement parce que ses disciples n'étaient pas prêts. D'ailleurs, nous le voyons par leur réaction. Il a dit 5 fois qu'il allait à Jérusalem pour mourir. Malgré cela, ils n'ont compris qu'après la résurrection de Christ. Ces 5 fois, vous pourrez les lire dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 17, verset 12, chapitre 17, verset 22 et 23, chapitre 20, verset 18 et 19, ainsi que chapitre 20, verset 28. Poursuivons notre lecture, verset 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le 3e jour. Voilà ce qu'a fait Jésus pour vous et moi. C'est cela l'Évangile. Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, il fut enseveli et il est ressuscité. Vous devez savoir qui est Christ. Vous devez savoir ce qu'il a fait pour vous. Si vous savez ces deux choses, et que vous croyez en Christ, et que vous le recevez, alors vous êtes sauvés. Ceci n'avait jamais été révélé, sauf à Nicodème, un chef religieux, au début du ministère de Jésus-Christ, que nous retrouvons dans Jean chapitre 3, versets 1 à 16. Verset 22. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » En fait, Pierre dit, « Tu es le Messie, tu es le Fils de Dieu, tu ne dois pas et tu ne peux pas mourir sur une croix. » La croix ne faisait pas partie du concept du Messie et du roi qu'avaient les apôtres. Verset 23. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Nier la mort de Christ à la croix et sa résurrection est un acte satanique. Tout prédicateur qui nie cela en chair commet un acte satanique. Seule la mort expiatoire à la croix de Jésus-Christ, notre substitut, peut nous sauver. Plus tard, Pierre a écrit, « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéri. » Première épître de Pierre, chapitre 2, verset 22. Le Seigneur a dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan !» Une minute. Pierre affirme que Jésus est le Fils de Dieu la minute suivante. Il est trompé par Satan. Verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Certains pensent que ce verset réfère à se priver de certaines choses telles de la crème glacée. Ce verset ne nous dit pas de renoncer à certains items de luxe. Ce verset dit de renoncer à nous-mêmes, ce qui est la chose la plus difficile à faire au monde. Renoncer à soi-même, c'est mourir à soi-même et mettre Christ à la place. Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Ce n'est pas la croix de Christ que nous devons prendre, mais notre propre croix. Nous en aurons une si nous décidons de suivre Christ. Versets 25 à 27. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra chacun selon ses œuvres. Celui qui refusera de prendre le risque de devenir un disciple de Christ, en fin de compte, perdra sa vie éternellement. Le contraire est vrai aussi. Lorsque Christ reviendra, chacun recevra sa juste récompense. Verset 28. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'il n'ait vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Le Fils de l'homme revient. Es-tu prêt? Chers amis, préparons-nous à la prochaine émission. En lisant l'Évangile selon Matthieu, chapitre 16 jusqu'au verset 28, et du chapitre 17 jusqu'au 27e verset.
Merci, Régin. Oh, mon ami, on a entendu un message qui a transformé ma vie il y a déjà près de 26 ans quand j'ai appris qui était Jésus. Il n'était surtout pas un imposteur, mais bel et bien le Messie attendu. J'ai déjà pensé qu'il était simplement un prophète, un homme qui avait fait beaucoup de bien pendant son temps sur la terre. Mais un jour, Dieu le Père m'a révélé la même chose qu'il avait révélé à Pierre. Et tout comme Pierre, je peux maintenant dire à Jésus, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Oui, Jésus est le Messie. Et c'est l'Esprit de Dieu qui me l'a révélé. quand Dieu a mis quelqu'un sur ma route pour m'annoncer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Réjean nous a aussi enseigné aujourd'hui que Pierre n'était pas la pierre sur laquelle Jésus-Christ bâtit son Église. Non, non, non. C'est Jésus lui-même qui est cette pierre, ce roc solide, ce fondement pour son Église. Eh, mon ami, tu as entendu aujourd'hui que si tu crois en cette pierre, si tu crois en Jésus, tu ne seras jamais confus. Tu peux faire partie de cette Église de Jésus si tu crois en lui seul pour le pardon de tes péchés. Il a payé cher en souffrant et en mourant sur la croix pour t'offrir cette place dans son Église qui va bientôt être au ciel avec lui pour l'éternité. Imagine passer l'éternité avec Dieu lui-même, ton Créateur, ton Sauveur. On a vu aussi que les clés du royaume des cieux n'ont pas été données seulement à Simon-Pierre. Si tu reçois Jésus comme ton Sauveur, si tu fais la même confession que Pierre de tout ton cœur, tu vas aussi recevoir les clés du royaume des cieux. Tous ceux qui reçoivent Jésus comme Sauveur deviennent enfants de Dieu et reçoivent les clés du royaume des cieux. C'est pas merveilleux, ça? Avoir ces clés-là dans tes mains, à chaque jour, d'être certain que quand tu vas mourir, tu vas aller au ciel, parce que tu as la clé, Jésus lui-même. Et si tu es déjà un enfant de Dieu, à toi maintenant d'offrir les clés du royaume des cieux à tous ceux qui t'entourent, à tes collègues, tes voisins, tes amis, ta famille. Ils n'ont pas encore reçu cette clé, cette belle clé qui leur donne accès au royaume de Dieu. Alors prêchons l'Évangile. C'est le seul message qui conduit au salut. Allons ensemble vers ces gens qui sont malheureux, sans Dieu dans le monde, et offrons-leur les clés du royaume des cieux. Semons dès l'aurore, comme dit le chant. Les gens sont dans la nuit, sont dans les ténèbres. Et nous, nous sommes dans la lumière depuis qu'on connaît Jésus. Alors, en tant qu'enfants de lumière, allons avec ses clés. Allons débarrer ses portes, les portes de ses cœurs, pour que la parole de Dieu puisse y pénétrer, pour qu'ils puissent devenir des enfants du royaume de Dieu, qu'ils puissent eux aussi posséder ces belles clés, les clés du royaume que Dieu prépare pour ses élus. N'attendons pas.
Cher peuple du Québec, je profite de l'occasion pour vous inviter à participer au Camp de l'Espoir du 15 au 19 juillet 2003 qui se déroulera à Grand Sault, Nouveau-Brunswick. Nous vous offrons une nouvelle vague d'aventure dans le Seigneur. En plus de faire des sondages mercredi et jeudi en visitant les gens de l'endroit, vendredi, le 18 juillet, à la polyvalente Thomas Albert, vous assisterez à un spectacle de marionnettes en fin d'après-midi et plus tard, en soirée, à une présentation de musique gospel animée par le groupe Aujourd'hui l'Espoir. À ce dernier, un groupe de la Nouvelle-Écosse va se produire sur scène et une artiste chrétienne locale, Brenda Genot, gagnante d'un Christian Country Music Award au Tennessee, va nous faire connaître quelques-unes de ses chansons. Une belle soirée en perspective, je vous le dis. Et samedi matin, donc le 19 juillet, dès 9h, vous êtes invités à participer à notre merveilleux déjeuner d'espoir, toujours à la cafétéria de la polyvalente Thomas Albert de Grand Sault. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par Dieu, celui de la chanteuse Caro. C'est donc un rendez-vous au Nouveau-Brunswick du 15 au 19 juillet 2003. Au plaisir de vous y voir.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.